Chers frères et sœurs, il y a dans notre patrimoine biblique quelques paroles qui évidemment sont tout à fait adaptées à notre situation. Notamment dans le livre du prophète Ésaïe, lorsqu'il nous est dit que lorsque tout s'effondrerait, lorsque tout chancellerait dans notre vie et autour de nous, eh bien, l'amour de Dieu ne faiblira point. Il y a des paroles qui nous ont été utiles pendant toutes ces longues, trop longues semaines où nous avons été séparés les uns des autres. Nous avons dû faire face à l'inquiétude, à la menace, à la distanciation. Et nous voici aujourd'hui en partie réunis à nouveau, physiquement, matériellement, mais aussi spirituellement, affectivement, pour célébrer le culte auquel Dieu nous appelle. Alors, entendons ces quelques paroles également qui nous disent la perspective, ce qui a pu nous animer pendant toutes ces longues semaines. Quelques mots qui disent que la joie est la vie, la force et le courage d'être, nous sont donnés de la part de l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel qui attire à l'existence ceux qui n'existent pas encore. Voilà, frères et sœurs, ce que nous célébrons encore par notre présence et par le chant que nous allons maintenant proclamer avec le psaume 33, cette première strophe, et je vous invite à vous lever dans la position des ressuscités pour chanter avec ferveur cette première strophe du psaume 33. Seigneur, parce que ton royaume s'est approché de nous et qu'il est à la fois hors d'atteinte et déjà présent, nous pouvons en toute confiance reconnaître nos fragilités. C'est pourquoi nous pouvons dire en toute simplicité nos manquements, nos errements de ces derniers mois. Nous pouvons trouver le repos car nous sommes en vérité devant toi. Nous n'avons plus à tenir un rôle, nous n'avons plus à jouer un autre personnage. Nous reconnaissons que nous avons besoin de trouver le repos qui consiste à déposer ces fardeaux qui nous empêchent de vivre librement selon ton amour. Aide-nous à voir que ton règne d'amour et de justice s'est approché de nous par Jésus-Christ. Aide-nous à découvrir à quel point nous sommes effectivement tes enfants, filles et fils de ta grâce. Seigneur, nous venons nous abreuver de ton esprit. Nous avons besoin de trouver en nous une source de vie, une source de réconfort, de pardon et d'espérance. Seigneur, nous venons te demander de raviver nos existences. Renouvelle ton souffle en chacune de nos vies. Aide-nous à nous ouvrir à ton Esprit Saint et à découvrir la joie que donne ton salut. C'est au nom de Jésus-Christ que nous osons te prier ainsi. Amen. Et nous restons assis pour chanter la première strophe du psaume 42. La première strophe. C'est avec ces paroles du livre du prophète Jérémie que nous retrouvons la promesse qui nous est faite. Voici, je ferai une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Je t'aime d'un amour éternel, déclare l'Éternel, et je te garde ma miséricorde. Frères et sœurs, inscrivons ces paroles au plus profond de nous-mêmes, et que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Nous pouvons nous lever et chantons notre reconnaissance avec la troisième strophe du psaume 42.
est pour nous source de vie. Il amène toute chose à l'existence. Il veille sur sa création et l'anime de sa force de vie, de sorte qu'elle reflète sa gloire. La présence de Dieu monte en nous. Elle occupe nos vies de sa lumière. Dieu montre les fautes du monde. Il dénonce les forces du mal qui nuisent aux hommes. Il nous ouvre au combat de la vie et de la lumière. Nous comptons sur Dieu. Il nous réoriente et nous dynamise, afin qu'avec tous les hommes de bonne volonté de la terre entière, nous collaborions à son grand dessein de vie en plénitude. Viens, ô Dieu, et que ta volonté se fasse. Et voici comment nous pouvons répondre oui à l'appel de Dieu, avec la confession de foi de l'Église mélonite d'Amsterdam. Nous croyons en l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham et de Sarah, des prophètes et des apôtres, dont la force de l'Esprit appelle les hommes, les touche et les fait se lever en une vie renouvelée. Nous confessons Jésus-Christ, parole et image de Dieu. Il nous guide sur le chemin du royaume de Dieu. Il nous apprend à aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Nous suivons la voie qui nous montre, voie de pardon et de vérité, d'amour, de justice et de paix. Nous prions le Saint-Esprit, souffle de Dieu qui renouvelle en nous inspiration et courage. Il nous rapproche les uns des autres, nous unit à tous et nous rassemble. Nous célébrons ensemble, nous progressons, nous nous entraînons, nous témoignons, nous construisons le monde nouveau, le monde du royaume de Dieu qui vient. Nous sommes une confrérie de croyants, unis dans la foi et dans un même baptême, dans la fraction du pain et le partage, unis par nos paroles et par nos actes, dans la confiance et le dialogue, lecteurs de la Bible fidèles à la tradition de l'Église, toujours à la recherche de mots nouveaux pour exprimer notre foi. Inspirés par l'amour pacifique du Christ, nous sommes appelés à une attitude responsable, à lancer des ponts entre les hommes, et tels que nous sommes, avec les possibilités qui sont les nôtres, à rendre un peu visible l'œuvre que l'Éternel accomplit par nous dans ce monde qui est le nôtre. Amen. Et je vous invite à chanter dans le cantique 405, les strophes 1, 2, 1, 3 et 4. Thank you.
prière avant de lire le passage de la Bible qui nourrira notre méditation. Dieu notre Père, ta parole est comme l'eau. Alors, rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant. Entraîne-nous vers son estuaire. Ta parole est comme le feu. Elle nous éclaire sans nous éblouir. Elle nous réchauffe sans nous brûler, sans nous consumer. Ta parole est comme le ciel. Élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur, la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre, alors de grâce, enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité, la constance de tout ce que tu nous offres, tout ce que tu exiges, tout ce que tu promets. Amen. Cette matinée est finalement assez prophétique. Après Ésaïe, après Jérémie, voici le livre du prophète Amos. La fin du prophète Amos, au chapitre 9, nous révèle ceci. Livre du prophète Amos, au chapitre 9, à partir du verset 5. Le Seigneur, l'Éternel Sebaoth, touche la terre, et elle s'effondre. Tous ses habitants sont alors dans le deuil. Elle monte tout entière comme le Nil, elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. L'Éternel a bâti sa demeure dans les cieux, il a fondé sa voûte sur la terre, il appelle les eaux de la mer, il les répand à la surface de la terre, l'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les fils des Éthiopiens? Fils d'Israël, voici l'oracle de l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Caphor et les Syriens de Tyr? Voici que le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de la surface de la terre. Toutefois, je n'irai pas jusqu'à l'exterminer. Oracle de l'Éternel, la maison de Jacob ne sera pas exterminée. Car voici que je donnerai mes ordres, et je ferai secouer la maison d'Israël pour toutes les nations, comme on est secoué par le crible, sans qu'il en tombe à terre une seule parcelle. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Eux qui disent « Tu ne feras pas approcher le malheur et tu ne feras pas arriver jusqu'à nous. » En ce jour-là, je relèverai la cabane chancelante de David. J'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'ils entrent en possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Oracle de l'Éternel qui accomplit tout cela. Le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin suivra de près celui qui répand la semence. Le jus de fruits ruissellera des montagnes, et toutes les collines s'épancheront. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées, ils les habiteront, ils planteront des vignes, ils en boiront le vin, Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre. Ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Frères et sœurs, après ce texte assez dense, je vous propose de chanter la 8e strophe du psaume 42. Psaume 42, 8e strophe. Chers frères et sœurs, contre toute attente, il y a encore 3 mois à peine, nous voici au point où nous constatons que finalement, il y a encore plus menaçant que les menaces naturelles. Il y a encore plus grave que les risques naturels. Il y a plus facile à surmonter que les misères naturelles. Quand on doit faire face aux misères sociales. Notre société française a manifestement, si ce n'est pas le cas, vous nous jeterez les pierres plus tard, réussi à faire face rapidement à la pandémie due au coronavirus. Elles sont aujourd'hui beaucoup plus désemparées pour faire face à la succession de crises qui sont en train de voir le jour en Occident. Après la crise majeure qui a arrêté tout le monde dans son élan, Église incluse, voici le temps où des crises, où beaucoup prennent leur élan dans un sens qui est en train de déchirer la société. La vérité de ce phénomène n'a rien de nouveau, à la limite il pouvait même être prévisible, parce que cela arrive à chaque fois. Après chaque crise majeure qui les ont tétanisés, les sociétés ont toujours connu des soubresauts de division des uns contre les autres. Il y a toujours eu ces soubresauts, ces élans qui ont toujours eu comme point commun la tyrannie de la pureté. Après la Première Guerre mondiale, ce fut la montée des fascismes et la tyrannie de la pureté raciale. Après la Seconde Guerre mondiale, ce fut la montée du macartisme et la tyrannie de la pureté idéologique. Après le choc pétrolier, ce fut la montée de la xénophobie et la tyrannie de la pureté de souche. Et aujourd'hui, il y a des élans pour purifier la mémoire collective, notre histoire, de ce qui a fait d'une manière ou d'une autre au colonialisme sous couvert de chasse au racisme. Et il y en aura le jour où nous parlerons peut-être de la tyrannie de la pureté morale. Et on fut de même pour le peuple hébreu après les catastrophes de la défaite du royaume du Nord en 722, puis de la défaite du royaume du Sud en 586 avant Jésus-Christ. Ces deux catastrophes furent suivies d'exil, et c'est du retour d'exil dont parle le prophète Amos. Les suites de ces deux chocs qui furent suffisamment forts pour que des gens se mettent d'ailleurs à écrire les textes bibliques, pour garder la mémoire de ce qui s'était passé,
pour essayer de tirer les leçons à offrir aux générations suivantes, nous-mêmes.
Les suites de ce retour d'exil, les suites de ces deux catastrophes sociales, nationales, furent également marquées par la tyrannie de la pureté, une sorte d'hygiénisme de la pensée. C'était la traque du divergent, la traque de celui qui avait été fautif et qui ne l'était plus forcément. À chaque fois, il y a comme un besoin d'expier. Et pour cela, il faut trouver les victimes sacrificielles. Il fallait expier le fait d'être encore là, survivant,
survivant d'une catastrophe, comme si cela allait de soi.
Il fallait retrouver l'unité d'une société qui avait été fragmentée, qui avait été tiraillée entre plusieurs options possibles. Et pour refaire l'unité, rien de tel que le principe du bouc émissaire. Et voilà la grande affaire de toutes ces époques qui ont succédé à des catastrophes de grande ampleur. Voilà donc ce dont nous avons aussi la trace dans les textes bibliques, notamment à l'époque d'Esdras et de Néhémie. Mais nos rédacteurs ne se sont pas contentés de nous décrire ce qui s'était passé à l'époque de cet élan pour une pureté ethnique marquée par l'interdiction des mariages mixtes. Mariages mixtes dont il faut rappeler qu'il ne s'agissait pas simplement d'éviter d'épouser un non-juif. Il s'agissait aussi pour le Royaume du Sud, pour les Judéens, de n'épouser personne du Royaume du Nord, de n'épouser aucun Samaritain. Il y avait un cloisonnement, une véritable distanciation sociale qui était de vigueur pour préserver la pureté de la société et la pureté de la foi. Alors les théologiens d'époque se sont mis à écrire pour offrir une alternative sous forme d'oracle, oracle de l'Éternel, des contre-propositions, une idée de ce que pourrait être une société qui ne cède pas à ce principe bien facile du bouc émissaire et du déboulonnage d'une société installée. Les théologiens de l'époque ont donc développé une pensée alternative dont nous trouvons un écho dans ce livre du prophète Amos, qui a exercé sa vocation au 8e siècle, au moment de la défaite du royaume du Nord, et dont les actes et les paroles ont été complétés après la chute du royaume du Sud, au 6e siècle, 2 siècles plus tard, et puis complétés à nouveau au moment du retour des îles. Vous voyez, ce travail d'écriture et de réécriture, loin de fragiliser le texte biblique, loin de nous faire dire que du coup cela n'a aucune valeur, nous fait comprendre que le texte biblique est d'une épaisseur de sens inestimable. Parce que ce travail d'écriture, de réécriture, d'interprétation est une manière scientifique finalement d'établir un dialogue incessant entre les convictions et les réalités auxquelles nous sommes affrontés. Le véritable travail théologique est là, faire tenir une société devant Dieu. C'est-à-dire se tenir devant ce qui a pour nous valeur d'absolu, ce qui a un caractère éminemment sacré, et revisiter nos convictions lorsque cela est nécessaire, lorsque notre foi, pour lequel d'une manière religieuse, n'est plus capable de nous aider à bien comprendre ce que nous vivons, et n'est plus capable de nous permettre de penser ce que nous pourrions vivre. Alors ce passage que nous avons lu ce matin aborde beaucoup de questions qui nous ont préoccupés durant le confinement et qui nous taraudent aujourd'hui. Dieu détruit-il? est-il derrière tous les événements de notre histoire.
Un salut, une restauration sont-elles possibles?
Quel pourrait être le monde d'après? Le monde va-t-il inévitablement se défaire? Selon un calendrier maya, la fin du monde serait pour cette semaine. Tout cela est assumé notamment par ce texte, qui ne propose ni programme politique, ni plan pénal, ni changement de régime. Tout cela est assumé par notre texte qui ne nous dit pas que faire, mais qui être. Qui être? L'alternative est la suivante. Au lieu de se diviser sur ce qu'il faut faire, réunissons-nous sur ce que nous pouvons être. Au lieu de faire une compétition sur les mesures à prendre ou à rejeter, coopérons sur l'identité que nous pouvons faire émerger. Oui, il y a à faire, beaucoup à faire, mais il y a d'abord à être. Et tant que cette question de l'être ne sera pas travaillée, et dans une certaine mesure ne sera pas résolue, tout ce que nous ferons ne servira à rien. Pire que cela, nous allons voir. Notre première tâche, et je vais le dire d'abord de façon théologique, c'est de retrouver le chemin de l'éternel, ce que nos textes bibliques nomment par quatre lettres en hébreu, translittéré par YHWH, la racine du verbe aya, qui signifie faire advenir. Notre première tâche est de retrouver le sens de ce verbe, advenir, être, et de comprendre que ce que les textes bibliques nous disent au sujet de cela, c'est que l'être n'est pas à comprendre au sens d'un état. Je suis une table. Je suis une poule, quelque chose qui serait définitif. Une identité figée, ghettoisée. Mais l'être, compris comme une identité dynamique. L'être en devenir. Cette commune espérance que la Bible nomme donc Yahvé. Ce qui fait advenir. Ce qui porte à l'existence. Commençons par cela. Le chemin de Yahvé. Vous me direz qu'il est peut-être un peu ridicule de proposer comme alternative aujourd'hui à la société montpelliéraine, par exemple, de chercher le chemin de Yahvé. Autant cela peut être audible dans un temple, une synagogue, même une mosquée, autant, une fois qu'on est dans la rue, dans le tramway, on risque de passer surtout pour un illuminé. Alors, interprétons ce que signifie le chemin de Yahvé. Et commençons par comprendre ce que peut être le chemin de l'être. Tournons-nous vers Dieu pour que tout s'arrange et que la concorde prenne le pas sur les divisions. Tout cela peut sembler bien naïf. Cela peut sembler acceptable dans le cadre d'un culte. Tout le monde est là. Tout à l'heure, tout le monde paiera, en quelque sorte, pour qu'on dise ce genre de choses. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier une fois qu'on est sorti du temple? Repartons du verset 7. L'oracle ou l'Éternel exprime ceci, je cite, « N'êtes-vous pas pour moi comme les fils des Éthiopiens, fils d'Israël ?» N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Kaphtor et les Syriens de Tyr? Pris au pied de la lettre, cet oracle dit que Dieu est un personnage qui a libéré plusieurs peuples, qui étaient jusque-là réduits en esclavage. Et cela nous apprend déjà quelque chose, et cela enseignait déjà quelque chose aux Israélites de l'époque d'Esdras et de Néhémie, qui cherchaient la pureté ethnique, qui cherchaient l'isolationnisme, préserver l'identité et la réalité de leur peuple. Ce que cela nous apprend, c'est que tous, Éthiopiens, Philistins, les ennemis jurés d'Israélites et non des Israélites, partagent la même condition. Et ils partagent la même condition que tous les autres qui ne sont pas encore nommés. Ils sont au bénéfice de la même grâce de l'Éternel. Ce qui signifie que l'Éternel a une dimension universelle qui nous met en relation les uns avec les autres sur un registre d'égalité. Même les Philistins, les ennemis héréditaires, ceux qu'il fallait terrasser, sont au bénéfice de la grâce de ce que la Bible nomme l'Éternel. La grande vérité qui émerge de la première lecture, c'est que notre identité particulière est transcendée par cette dimension universelle que la Bible nomme Yahvé et que notre traduction rend par l'Éternel. Vous voyez ce qui me frappe, c'est qu'il y a encore quelques semaines, nous étions bien tous conscients de cela. Nous étions bien tous conscients que nous partageons tous la même condition, parce que nous partageons tous la même fragilité, la même vulnérabilité face au coronavirus. Et au fond, nous étions traversés par les mêmes peurs, par les mêmes inquiétudes, qui traduisaient en creux, en négatif, la même espérance. Ce désir de ne pas être malade, ce désir de ne pas mourir, ce désir de ne pas perdre un être cher, traduisait en creux le désir de vivre. Non pas sur le dos des autres, mais de vivre en compagnie de cet autre semblable, lui-même extrêmement vulnérable. Nous étions conscients de partager une même condition. Nous étions conscients qu'il y avait un caractère universel à nos humanités. C'est ce que dit ce texte. Et ce texte va plus loin. Lorsqu'il y a cette phrase un peu pénible pour nos oreilles contemporaines et protestantes, parfois un peu libérales, Dieu qui porte son regard sur le peuple coupable. Mais il y a là une vérité qu'il ne faut pas esquiver, car elle est fondamentale dans la construction de l'identité humaine, ce qu'on appelle l'anthropologie. Nous sommes des êtres vulnérables, comme le disait François dans la prière de repentance. Nous sommes des êtres pécheurs. Le péché est là, pour notre fragilité, pour notre incapacité à faire exactement ce que notre vocation nous appelle à faire. Et c'est cela que les textes bibliques, notamment avec le prophète Amos, nous invitent à ne pas oublier. Lorsque nous avons la tentation d'exercer un travail de purification des mémoires, un travail de recherche de pureté morale, lorsque nous voulons éliminer tout ce qui est un peu défaillant, tout ce qui est un peu divergent, tout ce qui n'est pas dans la norme, dans l'idéologie du moment, nous sommes toutes et tous pécheurs. Nous avons toutes et tous des choses à nous reprocher. Nous avons toutes et tous des choses dont nous ne sommes pas très fiers. Nous sommes aussi toutes et tous pardonnés. Nous sommes toutes et tous au bénéfice de cette grâce de l'Éternel, inscrite dans ce texte dont je vais encore vous parler. Allons au plus loin dans l'interprétation de ce verset 7, l'oracle que je vous ai relu, qui ne peut pas satisfaire les non-croyants à ce seul niveau de la lecture. Parce que dès qu'on dit Dieu, les oreilles se ferment et le cerveau est déconnecté. Acceptons cela. Prenons cela comme une exigence de faire un vrai travail d'interprétation pour tout un chacun. N'en restons pas simplement aux formules religieuses qui sont souvent une sorte de cache-sexe à une pensée qui n'a pas du tout été élaborée. Reprenons ce que symbolise Yahvé. Reprenons ce que symbolise l'Éternel. Yahvé, l'Éternel, c'est ce qui crée le monde en donnant une place et une fonction à chaque élément de ce monde. Et par la suite, après le livre de la Genèse, dans le livre de l'Exode, Yahvé, c'est ce qui libère les êtres de tout ce qui les déshumanise, de tout ce qui les rend esclaves,
de tout ce qui les empêche d'être libres,
libres d'être des hommes, libres d'être des femmes,
libres d'exister au sein de cette création, au sein d'une histoire qui a le sens du bien-être. Éternel, c'est ce qui crée. Éternel, c'est ce qui libère. Et avec ce prophète Amos, nous entendons qu'il le fait pour tous. Il y a une dimension universelle. Alors, laissons de côté les églises. Laissons de côté le culte, les catéchismes. Laissons de côté les repas paroissiaux. Et n'ayons Dieu que pour l'Éternel. Faisons abstraction de tout ce que la religion a pu produire pour sensibiliser les hommes à ce que Dieu signifie dans notre existence. Concentrons-nous sur les données bibliques. Nous avons Dieu qui crée et Dieu qui libère, d'une manière universelle. Dieu, dont le nom signifie Adonai. Et bien, il y a là la manière par laquelle les rédacteurs bibliques ont essayé d'exprimer cette vérité fondamentale. Chaque être humain bénéficie au même titre que les autres de cette puissance de création et de libération à l'œuvre dans le monde. Nul ne saurait être privé d'une partie de cette grâce qui consiste à avoir sa place dans le monde et à pouvoir exercer ses talents en toute liberté. Voilà le chemin de Yahvé que nous devons révéler à nos contemporains. Ce qui traduit de façon aussi compréhensible que possible, consiste à trouver les moyens que personne ne soit exclu de notre société et que tout le monde puisse développer son esprit d'entreprise. Que chacun puisse apporter sa contribution. Alors oui, revenons sur quelques autres affirmations un peu compliquées de ce texte. Oui, l'Éternel peut toucher la terre de telle sorte qu'elle s'effondre au sens où il y a à notre disposition tout ce qu'il faut pour intervenir dans la marche du monde. Dieu, en tant que ce qui crée et ce qui libère dans le monde, est à notre disposition pour intervenir partout où il y a des situations à changer. Dieu n'est pas ce qui garde les choses en l'état. Ce n'est pas le grand conservateur du monde. Dieu n'est pas ce qui maintient le monde dans une sorte de phase neutre. Dieu, c'est le fait qu'il y a dans notre histoire de quoi faire advenir la possibilité de rendre le monde plus vivable, quitte à mettre fin à des situations d'injustice. Dieu, c'est ce qui fait advenir des degrés supérieurs de liberté. Lorsque nous commençons à être allés au bout de notre histoire, quitte à mettre fin à des régimes d'oppression. Dieu, c'est l'être, non pas au sens d'un être particulier doté de superbes pouvoirs. Dieu, c'est la source de l'être, ce qui nous autorise à être, ce qui nous rend capable d'être humain. C'est l'être qui advient au monde. Et lorsque plus loin, il est donc dit que l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable, qu'il le détruira de la surface de la terre, mais ne l'exterminera pas pour autant. C'est une manière de dire que l'être n'a jamais dit son dernier mot. La puissance de vie n'a jamais dit son dernier mot. Et là, même lorsque nous pouvons être un peu accablés, résignés, que nous sommes usés de lutter pour la vie, eh bien, ce texte nous dit qu'il y a toujours cette puissance de vie, d'être disponible pour remettre un jeton dans la machine. Il est possible de secouer les institutions encore une fois. Il est possible de secouer les individus encore une fois. Il est possible de secouer les situations encore une fois pour les débarrasser de leur turpitude, pour leur permettre d'être véritablement. Alors, retrouver le chemin de l'Éternel, c'est retrouver le chemin de l'être, de cette
identité qui doit être travaillée pour qu'elle puisse s'épanouir et guider tout le reste. Le chemin du fondement de l'être, du fondement de notre identité, nous fait comprendre que notre identité n'est jamais figée et certainement pas sur le passé. Vous voyez, lorsque Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, cela dit bien que la vie, la vérité, ne sont jamais des données définitives. Il y a toujours un chemin à emprunter. Et qu'on n'en finit jamais d'avancer sur ce chemin de la connaissance de ce qui est une vie bonne et de ce qui est la vérité de celui que je crois sur ce chemin. Vient alors le deuxième moment de cette alternative d'après crise proposée par le prophète Amos. C'est le temps de l'action, enfin, mais pas avant d'avoir réglé la question de l'être, de l'identité. C'est le temps de l'action qui n'a pas pu faire l'économie du travail préalable sur l'identité. Car nous ne pouvons rien faire tant que nous ne sommes pas, tant que nous ne savons pas qui nous sommes, tant que nous n'avons pas adopté notre identité, tant que nous ne sommes pas devenus une âme tendue vers un idéal, cet idéal de vie que la Bible nomme Dieu, qui consiste à créer et à libérer. Tant que nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas agir. Ou lorsque nous agissons, nous agirons dans nos positions. Or, à la manière des jeunes gens qui se cherchent, et en se cherchant, s'opposent à leurs parents. Et si leurs parents ne font pas face, ils s'opposent à leurs enseignants. Si leurs enseignants ne font pas face, ils s'opposent aux forces de l'ordre. Si les forces de l'ordre ne font pas face, ils s'opposent à la société, puis à eux-mêmes, en retournant cette quête de soi contre eux-mêmes. Quand il n'y a plus aucun vis-à-vis qui assume ses responsabilités, c'est-à-dire qui accepte de répondre à ce formidable défi lancé par nos plus jeunes de savoir ce qu'ils sont et ce qui leur est permis d'espérer. Tant que nous ne savons pas qui nous sommes, nos actions sont destructrices. Voilà pourquoi il convient de ne pas agir avant de savoir qui nous sommes, avant d'avoir compris que nous avions une place ici et que nous étions libres de pouvoir exercer les talents qui nous ont été confiés. Car si nous ne savons pas qui nous sommes, la seule chose que nous savons, c'est ce que nous ne voulons pas. Comme ces jeunes qui cherchent à s'orienter au moment du bac, certains ont encore un peu le temps, et qui savent ce qu'ils ne veulent pas, mais qui ne savent pas ce qu'ils veulent, et qui du coup ne peuvent rien faire, du moins rien de constructif. Ils ne peuvent que s'opposer, car ce que l'on ne veut pas, forcément, on a plutôt envie de le détruire. C'est lorsque nous avons emprunté le chemin de l'éternel et que notre identité s'est révélée, que nous savons qui nous sommes et par conséquent ce que nous pouvons faire. C'est cela le geste créateur de Genèse 1. C'est cela le geste créateur dont nous avons tous besoin à chaque génération. Et voilà ce que nous devons faire aujourd'hui encore. Créer ce monde en lui offrant les paroles qui lui permettront de sortir du chaos. On ne sort pas du chaos par une force supérieure au chaos. On sort du chaos par des paroles qui donnent sens. À chacun, pas collectivement, à chacun. Ces paroles qui disent que tu as une place et que tu as une fonction. Genèse 1 ne fait pas autre chose. Mais c'est déjà énorme. C'est un travail foncièrement social, qui n'est pas réservé aux professionnels du champ social. C'est notre première responsabilité chrétienne et citoyenne. Être responsable, c'est répondre à cette quête du sens, ce que nous appelons le chemin de l'éternel en christianisme. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas que nous sommes peut-être le moissonneur. Et du coup, nous risquons de prendre la place du laboureur. Et si Si le laboureur ne sait pas qu'il est laboureur, il risque de prendre la place du semeur. Et si tout cela n'est pas fait dans le bon sens, alors il n'y aura pas de moisson. Et celui qui foule le raisin au pied n'aura rien d'autre à désigner que la poussière. Et peut-être est-ce là le problème que nous rencontrons actuellement. Il n'y a que la poussière à piétiner. Ou plus exactement, il n'y aura plus que de la poussière à piétiner. Parce que nous ne mettons pas forcément les choses dans le bon ordre. Cette porte d'annoncement que propose ce texte biblique, c'est ce qui permet de relever la cabane chancelante de David. Cette maison à laquelle il avait été dit qu'elle ne chuterait jamais en 2 Samuel 7, eh bien elle est chancelante, mais elle n'est pas à terre. Car quelques paroles, oh juste quelques paroles, peuvent la restituer, peuvent réparer ses brèches, reconsolider ses fondations et en faire un point d'appui pour une histoire à venir. Cet ordonnancement permet de relever la cabane chancelante, ce qui, à mon avis, est autrement plus intéressant que de vouloir casser la baraque ou de faire dégringoler le mobilier urbain. Plus difficile, mais plus intéressant. Cela demande de l'intelligence, de la coopération, de l'énergie, de la créativité, mais c'est autrement plus jouissif lorsque cela se réalise. Car la véritable joie s'exprime lorsque nous créons, lorsque nous libérons, pas lorsque nous humilions et nous mettons à terre. Oui, ce texte nous dit qu'il y a à notre disposition de quoi réparer les brèches, rebâtir ce qui a été dévasté, de manière à pouvoir habiter, à pouvoir se tenir ensemble, à pouvoir planter des vignes, en boire le vin, créer des jardins, en manger le fruit, autrement dit, vivre. Le livre du prophète Amos, dans la dernière version que nous avons reçue de la tradition d'écriture et de réécriture. Plutôt que de céder aux formes d'épuration qui ont toujours succédé aux crises majeures, nous encourage à penser notre identité. Pour nous engager dans des actions qui accompliront notre identité et qui rendront manifeste le caractère universel de ce que nous sommes. Retrouver cette expérience des semaines passées, pour reconnaître dans celui que nous croisons, celui qui est proche de nous ou celui qui est au loin, un frère, une sœur, qui partage notre condition, n'est pas simplement un frère dans la Constitution, qui n'est pas simplement un frère dans le texte biblique, mais qui est vraiment du même sang que moi. Le sang au sens biblique du terme, la vie. Alors, nous partagerons avec le reste de l'humanité cette espérance commune, inscrite dans ce texte. La possibilité de rendre le monde autrement plus fructueux qu'il ne l'est peut-être actuellement, et de pouvoir en jouir ensemble. Amen.
cantique 626, les trois premières strophes de ce cantique pour prolonger notre méditation. Levons-nous pour chanter.
Pour l'élargement, il faut échelonner les...
trouve Internet et par la poste aussi.
Très bien.
Voilà. Vous aurez eu l'occasion de vous préparer à l'émargement le 28 juin en allant voter avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas défaillir avant le 4 juillet. Nous vous remercions Catherine Hennepin qui a repris le clavier de notre orgue qui n'avait pas été utilisé pendant quelques mois, donc il est un peu rempoussiéré, donc c'est d'autant plus méritoire de sa part de jouer dessus aujourd'hui. Sachez que nous sommes à la recherche d'organistes, mais aussi de personnes qui jouent du clavier, du piano, qui pourraient jouer de l'orgue pour accompagner nos cultes dominicaux. Vous pouvez vous adresser soit à Catherine directement, soit à moi-même, bien évidemment. C'est le moment de vous parler un petit peu d'argent, de façon bien compréhensible. Nous avions tout un tas de préoccupations ces dernières semaines et nous sommes bien d'accord pour dire qu'il y avait des préoccupations plus importantes que les finances de la vie d'église. La vérité est que les finances, les recettes ont baissé, qu'il va falloir rattraper cela, mais que cela n'a pas impacté notre capacité à pouvoir être église. Parce que nous avons aussi un trésorier général qui a pu ajuster les différents flux financiers pour apporter notre contribution régionale, par exemple, de manière à ce que notre région ecclésiale ne subisse pas les affres de ce confinement. Maintenant, c'est le temps du rattrapage budgétaire, comme on dit. Je vous rends attentif également au fait qu'il y a la fin des travaux à financer. Et vous savez que nous pouvons bénéficier d'un dispositif de subvention par le biais de la Fondation de France. Il nous reste 7500 euros à abonder à ce budget pour que la Fondation de France débloque une subvention qui nous permettra de compléter notre budget. Donc, vous qui êtes les plus valeureux parmi nos contributeurs, ce n'est pas vous que je souhaite regarder ce matin, mais par les gens autour de vous. Vous voyez, il y a un patrimoine montpelliérain, lieu culte depuis 1870. Peut-être certaines personnes de votre entourage seraient intéressées de participer à sa rénovation. Il y a des formulaires de la Fondation du patrimoine qui peuvent leur permettre d'apporter une contribution pour que ce lieu central de Montpellier puisse maintenir sa fonction de lieu de vie pour la métropole. Et puis pour les finances ordinaires, c'est le moment où je vais maintenant vous donner le maximum et nous allons donc passer avec les aumôniers qui sont à un mètre de distance, donc tout va bien. Vous pouvez donner en toute sécurité. Il me semble que la joie de nos retrouvailles est aussi l'occasion pour nous d'éprouver justement ce caractère universel de la vie, ce qui nous permet d'élargir notre prière au-delà de notre propre personne, notre propre famille, notre propre communauté. Et je propose que pour ce temps de prière d'intercession, nous profitions de cette présence des uns et des autres pour penser le monde, pour penser notre place dans le monde, pour penser notre vie avec les autres, dans une prière silencieuse, chacun pour soi, après quoi nous nous rassemblerons dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Recueillons-nous tout simplement dans notre silence intérieur. Dieu notre Père, nous rassemblons toutes nos intentions de prière, nos inquiétudes, nos espoirs, nos souhaits, nos découvertes, dans cette prière que Jésus nous a laissée en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction au nom même de Dieu, au nom de ce qui fait advenir à l'existence ce qui est au-delà de nos espoirs. Oui, frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Et chantons la 9e strophe du psaume 42, psaume 42, strophe 9.